Europe 1, en balade avec Guy Savoy. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est en compagnie d'un de nos grands chefs, l'un des plus célèbres dans le monde, Guy Savoy, que nous partons en balade aujourd'hui. Son restaurant, le restaurant Guy Savoy de l'Hôtel de la Monnaie, a été désigné 2 années de suite, depuis 2017 exactement, comme le meilleur restaurant du monde. Guy Savoy nous emmène en balade chez son copain Patrick Roger, le chocolatier. Il nous emmène au marché, le marché de la rue Poncelet. Il va nous emmener dans l'un de ses restaurants, les bouquinistes. Et puis nous finirons dans son grand restaurant, le restaurant Guy Savoy.
Europe 1, 11h30, en balade avec Guy Savoy. Frédéric Taddeï.
Nous voilà chez Patrick Roger. Bonjour Guy Savoy. Bonjour.
Bonjour, cher Frédéric.
Face à deux ours sculptés en chocolat dans une ambiance gris métal et néon vert. C'est ça, la pâte Patrick Roger, non?
Bah, je crois que cette boutique, c'est une sculpture à elle toute seule déjà, non?
C'est Patrick. Ça, on rentre vraiment dans la sculpture, c'était voilà. L'objectif.
Ouais. Vous êtes le seul ce chocolatier sculpteur ou sculpteur chocolatier?
Au monde, oui. Un taré, ça suffit. Quoi.
Et il y a d'ailleurs des sculptures en aluminium, enfin il y en a une là, en vitrine également, elle est à vendre?
Tout à fait.
Ouais.
Elle est d'une élégance celle-ci, c'est incroyable. Toujours. Mais maintenant, tu fais vraiment dans le monumental, non?
Oui, actuellement, les 4 dernières sculptures font 5000 m². Donc ça commence à prendre une proportion disproportionnée. Donc c'est la taille de la connerie. Voilà.
C'est rapide de faire une sculpture au chocolat?
Aujourd'hui, oui, très. Ouais. Je suis juste infernal. Donc je dois me calmer parce que là, financièrement, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est 34 ans d'expérience.
Ouais. Évidemment.
Je dirais que c'est comme chez Guy, quand la brioche elle déroule toute seule avec la soupe.
Mais là, c'est du vice quand même de vous être installé juste à côté du concurrent.
Non. Bah, déjà, on ne peut pas vivre tout seul. Ça, c'est très clair.
Non, mais là, il y a la maison du chocolat juste à côté. C'est la même adresse, le 225 rue du Faubourg Saint-Honoré.
Ça, c'est zéro problème. Je pense qu'à Ginza, il y a Hermès, Chanel, Dior,
à Tokyo.
Y a tous les plus grands. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose. Pourquoi à Paris, on est aussi fort en cuisine? Parce qu'ils bastonnent, les garçons.
Ils sont tous bien. Mais...
Non, ce n'est pas une compétition. Je crois que c'est la manière de montrer à chaque fois un style singulier. Quoi. C'est ça. Quoi. Et moi, le style de
Patrick,
très
c'est
épuré
vert.
De Patrick.
C'est vert.
C'est bon. C'est très bon.
À chaque fois que je vois du chocolat, je pense à cet idiot de Christophe Colomb qui non seulement n'a jamais compris qu'il avait découvert l'Amérique, il croyait qu'il était aux Indes, même à sa mort. Hein. Mm-hmm. Mais quand on lui a donné pour la première fois du chocolat, il l'a jeté par-dessus bord parce qu'il croyait que c'était des crottes de chèvre.
S'il revenait aujourd'hui, il comprendrait ce que c'est le chocolat et les sensations qu'on a avec le chocolat. Moi, je veux dire, je suis addict total du chocolat. Alors, on me dit pourquoi je viens là, parce que j'en ai au resto. Hein. Mais là, il y a autre chose. Quoi, quand on a... C'est différent, quoi, ce que je disais tout à l'heure, les styles, les choses. On arrive ici, on sait qu'on est dans un univers qui est différent, quoi. On est,
c'est un peu 2001, l'Odyssée de l'espace.
On est sur une autre planète, absolument. On est sur une autre planète et les sensations commencent déjà en poussant la porte.
Vous avez commencé dans le chocolat, vous ?
Mon premier apprentissage, c'était chez un pâtissier chocolatier à Bourgoin-Jallieu qui avait fait ses armes chez Maurice Bernachon, le chocolatier star de Lyon. Et en fait, moi, j'ai passé des heures l'après-midi à être à côté de lui lorsqu'il trempait les palais or, pour faire les ganaches, pour faire tout ça. Mais curieusement, à l'époque, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'avoir autant de bons chocolats autour de moi.
C'est drôle.
Parce que je crois qu'il faut... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Patrick, mais moi, je me suis aperçu que c'est un peu comme la truffe. Il faut avoir un goût qui a évolué et qui s'est transformé pour aller vers ces goûts très marqués et qui sont quand même d'une pureté, quoi. C'est tellement tendu, c'est tellement la bouche est tellement à la fois, je dirais, les papilles sont à la fois comblées et la bouche reste d'une propreté incroyable.
Cette gourmandise, elle est fondamentale.
Absolument.
Pour moi, le succès, la clé, c'est cette capacité à manger beaucoup. J'ai cette chance de pouvoir manger beaucoup. Je suis né dans le Perche aussi, où on mangeait ces trois entrées, trois plats, trois desserts. C'est juste
c'est un truc de dingue.
Oui, mais c'est l'orgie, c'est ça qui est extraordinaire. Quoi. Et c'est à partir de là où c'est extrêmement bon. Il n'y a même pas besoin de tergiverser. C'est même pas une histoire de quel est l'endroit, d'où vient la poule, j'en sais rien. Et je pense que cette culture que l'on a, qui est tellement forte, c'est juste extraordinaire.
Est-ce que tu as remarqué quand même qu'il faut passer un certain cap pour apprécier le chocolat?
Disons que moi, jusqu'à 18 ans, j'aimais pas le chocolat. Voilà. Donc, on avait que du poulain.
C'est la même chose. Non, mais j'aimais, mais j'étais pas addict. Maintenant, on peut parler d'addiction.
C'est surtout qu'il y a eu une énorme évolution. Tout à l'heure, on parlait de la maison du chocolat. Sans doute, c'est après le nôtre. Ça, c'est les années 50. Tous ceux qui sont sortis de chez le nôtre, c'est les élèves de le nôtre, en gros. Ensuite, vous avez Robert Lynx qui est arrivé, la maison du chocolat. Et puis, la dernière révolution,
c'est
ici. C'est ici. Et je pense que au niveau technique, ce que l'on mange aujourd'hui, ça ne se mangeait pas il y a 20 ans. C'est vraiment évident. Donc il y a vraiment une évolution. La difficulté aujourd'hui, c'est juste de trouver les bonnes matières premières. Mais c'est surtout la façon de penser. Cette évolution, elle est incroyable. On ne mangeait pas ça chez nous, il y a 20 ans. J'avais 20 ans d'avance, certes.
Eh ben, on va partir en balade avec Guy Savoie. Aujourd'hui, vous allez nous emmener partout où vous avez vos petites habitudes. On va où, là?
Oui,
au marché Poncelet,
au marché Poncelet, qui est pas
là. Juste à côté.
Ce qui prouve que je reste encore très accroché au quartier de l'Étoile. Hein, le marché Poncelet, qui est un... En fait, c'est à la fois un vrai marché pour la diversité et la qualité, mais un faux marché parce qu'en fait, tous les commerçants qui sont là ont une boutique fixe et débordent dans la rue. Donc, c'est un... Alors, il y a une histoire avec ce marché. À une époque, je voyageais plus qu'aujourd'hui. Et lorsque je revenais d'Asie, les vols d'Asie, ils arrivent vers 6 heures du matin. Donc, ce qui me faisait arriver vers 7 heures à la maison, je prenais une douche et je fonçais au marché Poncelet. Parce que pour moi, un marché chez nous, en France, c'est la meilleure manière de reprendre contact, quoi, de se dire... Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est varié, qu'est-ce que c'est bon. Et puis cette atmosphère de gens à la fois qui bossent, parce que sur un marché, on voit surtout la mise en place du matin sur un marché, c'est puissant, quoi. J'ai envie de dire, c'est burné, parce que les gars, ils sont là au boulot, mais dans la joie. Sur tous les marchés, on voit les gens sont joyeux, ils s'interpellent, ils se trouvent.
Donc on va voir s'ils sont joyeux aujourd'hui. Merci Patrick Roger.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Merci à Guy.
Merci mon cher Patrick.
Frédéric Taddeï, en balade avec Guy Savoie sur Europe 1.
Quel est le meilleur endroit pour un chef cuisinier à part sa cuisine? Eh bien le marché, évidemment, et c'est d'ailleurs dans celui du 17e arrondissement qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Guy Savoie pour la suite de leur balade.
Ils sont là, ils sont bons!
Nous voilà au marché de la rue Poncelet avec Guy Savoie.
On est à l'angle de la rue Poncelet et de la rue Bayen, parce que ce marché fait un T en fait. Ouais. Hein. Le haut du T, c'est la... C'est la rue Poncelet et la jambe du thé, c'est la rue Bayen. Voilà.
D'accord. Et là, vous venez faire le marché ici tous les
semaines? Oui, moi j'aime bien venir ici en fin de semaine et là, on a tout. Quoi. On a ce que la France a de mieux, à la fois dans l'ambiance, dans la qualité des produits. Voilà, la famille d'Yvet. Oui, toi.
Impeccable. Quand je te vois, ça va très bien.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bien.
Très bien. Deuxième rayon de soleil. Ça devrait le temps est plus vieux, mais on a la quantité, mais on a la qualité.
Moi, je rêvais d'être bouché quand j'étais petit.
Non, mais rien.
Je rêvais d'être bouché quand j'étais petit.
Non, mais lui, attends, c'est boucherie, charcuterie. Bon, c'est les deux frères. Alors, il y en a un qui se débrouille bien, il est toujours à la caisse là-bas. Tu vas bien?
Un grand talent avec vous là, un très grand talent.
Puis alors, il a des talents d'imitateur qui sont extraordinaires.
Ça faisait si longtemps que je n'entendais plus ta voix. Ça faisait si longtemps, dis comment ça va. J'ai pensé à toi bien souvent. Je n'osais t'appeler. Les roses rouges que tu aimais, non tu vois, je n'ai pas oublié. Mais c'est parti.
Vous vendez du caviar aussi?
Ouais, du caviar, on en vend très peu.
Ouais.
Très peu, c'est devenu trop cher. Pourtant, c'est un caviar extraordinaire.
C'est la maison que vous êtes bouché. Peut-être que les gens ne pensent pas acheter leur caviar ici.
Si, parce qu'il y a des produits de luxe quand même. Il y a le saumon, il y a le. Non, mais c'est trop cher.
Ici, c'est la maison du foie gras.
Le caviar, il valait 500 francs le kilo. On en vendait. Maintenant, à 200 euros les 100 grammes, c'est trop cher. Attendez, les gens. Tout a un prix. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Il faut être logique. Un peu de décence.
À bientôt.
C'est ça, bon après-midi. Hein.
Merci.
Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait, on trouve beaucoup plus de choses sur les marchés, de meilleure qualité, qu'il y a 30 ou 40 ans?
Ah oui, je suis un fervent défenseur de la qualité des produits. Aujourd'hui, on trouve bien plus de beaux produits qu'il y a 20 ou 30 ans. T'es d'accord, non? Vous avez vu, les Argentins, ils n'ont pas tenu quand même. Hein?
Une belle partie,
ouais, c'était bien. On supporte quelques clubs de rugby.
Monsieur,
bien sûr, le club
monsieur vend des fruits et légumes.
Voilà, ah des fruits et légumes. Alors, il faut voir la qualité des fruits et des légumes qu'il y a ici. Hein, c'est vrai que...
On est d'accord, super il y a 30, 40 ans, il y en avait moins. C'était moins bon.
Il n'était pas né. Bon, le problème, c'est qu'il n'était pas né.
Presque pas.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il n'y avait qu'une variété de pommes.
Oui, il y avait la Golden. Et aujourd'hui, on a...
Ah bah oui, là.
Rentré, parce que là, il y a tout ce qu'il faut.
Là, des variétés de pommes, on...
Mais oui, maintenant, il y a des pommes de toutes les couleurs. Ouais. Quand j'étais petit, c'était toutes les mêmes.
Écoute, voilà. Moi, j'aime bien venir ici. Regarde les châtaignes. Hein, ouais. La taille des châtaignes.
Ça, c'est sélectionné. Hein.
Ouais,
c'est là, ici, on a des clémentines corse. On a... Ouais, non, il y a des bons produits. Il y a encore des framboises ici de Corrèze.
Ouais. Voilà. Non, c'est une belle produit.
C'est une débauche de couleurs.
Les champignons, tu as toujours.
Ouais, toujours c'est... un peu, hein, très ouais. peu, mais on a quand même de la variété parce que ce matin, il y a de la trompette, il y a de la chanterelle, de la girole, du cèpe, encore des beaux cèpes là. Ouais. C'est superbe ça. Et puis là, on commence les litchis de la Réunion.
Je me souviens, à New York, j'avais vu Daniel Boulu, qui était du cirque.
Un très bon ami,
il me disait que c'était formidable, New York, parce qu'on trouvait des produits qui arrivaient du monde entier, de très bonne qualité. Et il avait l'air de dire que quand il avait quitté Paris, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas à Paris,
bien
maintenant.
Sûr, bien sûr, on a les plus, mais on a les plus beaux, non seulement les plus beaux produits, mais la plus belle diversité.
Ouais.
Ça se tient bien dans les carottes là-bas, entre les différentes couleurs.
C'est les produits français, évidemment, qu'on a les meilleurs. Mais il avait l'air de dire que, question produits venus du monde entier, on était moins diversifiés quand il était parti. Hein,
que nous, est-ce que tu as du
hockey
carré.
Sur un gis, maintenant,
il y a tout.
Ils importent tout. Ouais. Ah, oui. J'ai même envie de dire, je pense que mieux qu'aux États-Unis. Hein.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Bonne journée.
Merci bien.
Merci pour ton accueil.
Salut,
au revoir. Au revoir.
Une fois, vous avez dit la table est un lieu de plaisir sans limite. Et c'est vrai que quand on est ici, dans un marché comme celui-ci, on se dit il a raison. Mais c'est vrai, pas forcément vrai au restaurant. Au restaurant, on est limité par les prix, on est limité par la carte, on est limité par les voisins, ceux qui dînent ou déjeunent autour de nous.
Non, mais ça n'empêche pas la joie. Je veux dire, c'est pas... Au contraire, ce qui me plaît dans un restaurant, c'est la montée de l'ambiance. 20h30, c'est calme. 21h30, ça devient sonore. Et 22h30, on sent le plaisir le plaisir des convives. On sent que la salle s'anime. On sent qu'elle prend sa belle vitesse, quoi. Et je dis toujours, on a la chance de voir deux transformations. La transformation des produits que l'on transforme nous-mêmes, hein, c'est-à-dire dit que la cuisine a l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Et on voit aussi la transformation du visage des convives. Et ça aussi, c'est un réel plaisir pour le cuisinier de voir une salle animée vers 22h, 22h30 et plus tard.
Du Savoie, on vous retrouve dans un instant, toujours au marché Poncelet, après une pause.
Aujourd'hui, jusqu'à midi et demi, Frédéric Tadéis balade dans les rues de Paris avec le chef cuisinier Guy Savoie.
Nous sommes au marché de la rue Poncelet avec Guy Savoie, désigné depuis deux années successives. Votre restaurant serait le meilleur du monde, vous y croyez? Si, c'est la liste qui a mouliné tous les guides du monde,
voilà,
tous les commentaires des gens sur les réseaux sociaux.
Et des journalistes.
Des clients. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le restaurant de l'Issavoie, le restaurant de la Monnaie, le meilleur restaurant du monde. Et cela pour la deuxième année Ça fait 2 ans que ça dure. Mais est-ce que vous y croyez?
Vous savez, moi, j'ai toujours le... On a deux défis au quotidien. C'est d'abord le déjeuner, ensuite le dîner. Et il faut que pour à chaque table et pour chaque convive, c'est ça le vrai défi. Et mon prochain projet, c'est le dîner ce soir. Voilà.
Ouais.
Il ne faut jamais se départir de ça.
Et là, vous venez de recevoir le prix du rayonnement...
international pour la gastronomie.
C'est
voilà.
Ça. Qui vient couronner aussi le fait que ce soit le meilleur restaurant du monde.
J'avais été marqué il y a quelques décennies. Il y avait un très grand joueur de golf qui s'appelait Gary Player. Et il a eu toute une série de tournois qu'il remporte brillamment. Et un journaliste lui dit, mais monsieur Player, vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup de chance en ce moment? Et lui, il répond, c'est bizarre parce que plus je travaille, plus j'ai de la chance. Donc voilà, je pense souvent à cette anecdote et je me dis que bon, je travaille, les équipes autour de moi travaillent beaucoup, je travaille beaucoup. Et bon, ouais, c'est vrai que les récompenses, c'est toujours tellement bon à prendre.
Ça m'amuse de faire le marché avec vous, mais j'aurais pensé que vous le faisiez à Rungis, c'est très très tôt, à 5-6 heures du matin, c'est là que j'imaginais qu'il s'envoie.
Alors ça, je l'ai fait beaucoup. Alors bon, vous avez compris que le marché ici, je le fais à titre personnel. Et puis ça me permet aussi, moi, d'être en permanence. Déjà, première raison, j'aime beaucoup ça. Et puis ça me permet de bien sentir tous les produits qu'il y a, tous les produits d'actualité. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est important d'être toujours en prise directe. Voilà. Oui, on ne l'est pas toujours avec les fournisseurs avec lesquels on passe maintenant le...
Vous n'allez plus à Rungis comme autrefois,
vous
y allez tous les matins, non?
Oui, mais là, il faut quand même dormir un peu,
ouais.
Qui est un marché extraordinaire. Hein. Moi, je sais qu'on peut s'y perdre, mais lorsqu'on a fait la sélection des lieux où on trouve les produits magnifiques, là, on peut...
Vous aimez les marchés orientaux?
Absolument, mais vous savez que...
Les marchés africains...
Là, je vous ai amené ici au marché Poncelet. Et j'aime parfois prendre un marché, pas forcément au hasard, je sais où je vais, mais j'aime beaucoup Aligre. Belleville est un marché haut en couleur. C'est voyager sans prendre l'avion, quoi.
Mais c'est typiquement français pour moi, le marché. Et en même temps, quand on est au bout du monde et qu'on tombe sur un marché Thaï... Ou un marché.
Ah oui, il y a certains pays.
Ça m'est arrivé l'année dernière.
Non, mais il y a des marchés.
Mais non, il y a des marchés partout.
Au Vietnam, il y a moi, j'ai le souvenir de marchés au Vietnam qui étaient à la fois tellement. Il y avait tellement de diversité de produits et il y avait surtout des choses cuisinées, mais des soupes et des choses comme ça qui étaient cuisinées juste au bord du trottoir. Et c'était des sensations formidables. Mais on reste quand même le pays de la diversité. Et tous les villages, toutes les villes de France ont un marché. Hein. Un jour par semaine, il y a le marché.
On est de retour au bord du trottoir, on l'entend en voiture. On le sent aussi, vous. Est-ce que vous sentez tout, Guy Savoie? J'imagine que dans un marché, vous chopez toutes les odeurs, et dans la rue aussi, non?
Les odeurs, et puis surtout l'œil, je crois qu'on est... Bon, c'est normal, on est toujours attiré. Tout à l'heure, tous les mini cèpes là, qui étaient tellement fermes. C'est vrai que bon, c'est normal. Hein, l'entraînement est là.
Et qui savoir, on en profite pour écouter un disque. J'ai pensé que la chanson de Juliette Gréco, Paris couleur novembre.
Là, c'est vraiment couleur novembre.
Hein. Que le temps fume du gris, écoute un peu la chanson de Paris couleur novembre. Un enfant court dans une rue sans vitrine, il rencontre au carrefour, sans violon désaccordé, un chien tout bleu qui court après les nuages. Un oiseau dans le ruisseau, deux amoureux tout mouillés, le temps graisse, il est rouillé. Écoute un peu la chanson du vieux novembre à Paris. À l'accordéon parle de ciel au métro, de lilas porte Saint-Ouen et d'amour au pas perdu. Un homme rêve de limonade au soleil, comme au temps où il y avait des glycines à Saint-Germain. le temps que pleure le temps. Écoute un peu la chanson du vieux Paris sur novembre. Deux amoureux courent après les nuages dans une rue sans vitrine, parmi des gens sans regard. L'accordéon trousse les jupons du vent. Un oiseau dans le ruisseau cherche un coin de ciel tombé dans les cheveux gris du temps. Écoute un peu la chanson de l'enfant couleur cerise. Quand il viendra par le métro aérien, son manteau bleu sur l'épaule, la rose à l'accordéon, nous reverrons de vrais visages humains, boulevard Sainte-Folie, et nous nous dirons bonjour, et cela voudra vraiment dire bonjour, bonjour.
C'était Juliette Gréco qui interprétait Paris couleur novembre. On continue notre balade avec Guy Savoie. À tout de suite.
La balade de Frédéric Taddeï et Guy Savoie continue encore jusqu'à midi et demi. Et alors justement, pour tenir jusque-là, ils ont décidé de garder des forces pour se rendre du 17e au 6e arrondissement de Paris.
Nous sommes en taxi, on va vers la rue Guénégo avec Guy Savoie. Guy, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de vivre l'âge d'or des cuisiniers, des chefs ?
Oui, bien évidemment que c'est l'âge d'or. Quand j'entends dire que ce métier est difficile, bien sûr qu'on travaille beaucoup, mais ce n'est pas une tare de beaucoup travailler. Et on a la chance d'être, d'être reconnu, d'être soutenu. Maintenant, et ça a pris une ampleur, je dirais, planétaire, parce que la grande évolution aujourd'hui, c'est que on parle cuisine partout sur la planète, des pays j'allais dire surtout en Angleterre, à Londres, il faut voir tout ce qui se passe. Bon, après, si on traverse l'Atlantique, New York et tout, mais je suis implanté à Las Vegas. Quand je vois à Las Vegas tous les produits que l'on trouve et tous les vins surtout. Vous pouvez aller le dimanche matin dans un immense entrepôt qui est ouvert dès 8h du matin et vous trouvez tous les vins du monde. Mais depuis nos grands châteaux bordelais, jusqu'à tous les grands whisky, les grands cognacs, toutes les bouteilles qui existent sont là.
Non, il y a un côté rockstar chez les cuisiniers. Il y a eu un film d'ailleurs moi, que j'ai trouvé totalement ridicule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Bradley Cooper dans le rôle d'un cuisinier.
Moi, je suis resté ouf.
Un cuisinier génial, mais qui a un passé d'alcoolique et de junkie. Ouais. Et vraiment, il le voit comme une rockstar. Le film est ridicule, mais on voit bien que c'est, même à Hollywood, il projette sur les cuisiniers des choses aujourd'hui qu'on n'aurait pas projetées il y a 30 ou 40 ans.
Absolument. Mais le plus beau film hommage à la cuisine, c'est le Festin de Babette.
Oui,
on peut difficilement faire mieux.
Ah, il y a Tam Popo chez les Japonais.
Il y a Eddie Mitchell incarné dans. C'est la cuisine américaine, je crois.
Hein. Oui.
Incarné le rôle d'un.
Puis Louis de Funès, le grand restaurant.
Le grand restaurant. Mais là, c'est, caricature. Mais là, Eddie était très crédible dans ce rôle de cuisinier.
Ouais. Ouais. Au moment du suicide de votre ami Bernard Loiseau, c'était en 2003, vous auriez dit à plusieurs reprises ils ne mourront pas. Que vous pensiez à ce moment-là ?
Non, mais je ne sais pas. Vous savez, quand
vous venez d'avoir votre troisième étoile.
Voilà, on dit, oui, ça faisait un an, oui. Alors, bien sûr, il s'est dit aussi beaucoup de bêtises autour de cette disparition. Certains ont avancé, le travail, la pression des guides et tout. Je pense que c'est malheureusement une maladie qui s'appelle la dépression. Oui, c'était sous le coup de l'émotion, j'avais dit ça en disant, je pensais que c'était tout ce qu'on met en avant parfois pour nos métiers, sur la difficulté, sur le temps de travail, sur la pression.
C'est souvent la pression des étoiles. Des étoiles,
oui,
il ne faut pas les perdre.
Tout simplement la pression des convives, du déjeuner ou du dîner. Je crois qu'ils viennent chez nous passer un moment d'exception et on n'a pas le droit de traiter tout ça à la légère.
Il y a les banques aussi. On pense aussi aux banques parce qu'on se dit, quand on est un grand chef, qu'on s'endette pour faire un grand restaurant. Parce
absolument.
Que les étoiles, ça va aussi avec l'endettement, souvent. Et tout on se fait. Dit, ça peut être ça aussi. Quand on parle de la pression,
mais c'est bien sûr, c'est mais les c'est banques, toute hein. la pression de n'importe quel chef d'entreprise. De n'importe quel... Mais bon, moi, j'essaye de me mettre dans une vision très positive. Je me dis que ce métier, on a la chance d'être en prise directe avec les choses de la terre et de la mer. Ça, c'est important. Hein. Tout ce qui s'élève, qui pousse, qui se cultive, qui se pêche et tout, qui se cueille, arrive chez nous. Donc ça, c'est cette prise directe avec les choses de la planète. En fait, ça, c'est quelque chose de très fort. Moi, les produits, ça me... Comment dire ? Ça me dynamise, ça me dope. Je veux dire, la vue d'un beau produit vous donne évidemment l'envie de le cuisiner.
Ça va jusqu'aux fleurs maintenant ? Il y a des gens qui commencent à vouloir faire des choses avec les fleurs, à manger des fleurs.
Oui, mais ça, c'est de nouvelles voies qui s'ouvrent. À une époque aussi, c'était très à la mode d'avoir des éprouvettes et des seringues dans la cuisine. Moi, je n'étais pas tout à fait pour, parce que c'est plutôt une vision phobique de tous ces ustensiles qu'on préfère ne pas voir, en fait. Et voilà, mais après, bon, il y a...
Les fleurs, les insectes.
Les fleurs, les fruits, les insectes... Nous, on a la chance d'être dans un pays où tout pousse et que bon, je ne vois pas remplacer le poulet de Bresse par un insecte. Quoi. On a la chance d'avoir le poulet de Bresse. Restons avec notre poulet de Bresse. Et voilà, et on a la chance d'avoir des champignons. On a la chance, en sauvage, on a les champignons. Donc,
mais pourquoi les... Je reviens à cette affaire Bernard Loiseau. C'est qui les adversaires d'un grand chef, par exemple? Il faut qu'il se méfie de qui? C'est quoi les tentations auxquelles il faut les résister?
Non, je crois qu'il faut se méfier. Il faut rester les pieds sur terre.
C'est pour ça que vous faites une heure de kung-fu par jour. C'est pour rester les pieds sur terre.
C'est pour... ah, souvent, en kung-fu, on a les pieds en l'air. Mais... Non, mais on est... c'est vrai qu'il faut... Mais je crois que lorsqu'on travaille, je veux dire, avec tous ces artisans, encore une fois, de la terre et de la mer... Qu'on est en permanence dans le concret, le métier de cuisinier est en permanence dans le concret. Les produits, ils arrivent le matin, on les transforme, ils sont dégustés dans la journée. Moi, je n'aurais pas pu vivre dans un monde complètement virtuel, quoi. C'est pas possible. Il faut se toucher, il faut que je puisse découper, assaisonner, cuire, cuisiner. Et tout ça, c'est avec un résultat instantané en cuisine. Filet de rouget, c'est quelques secondes. Et donc, c'est en permanence, on est valorisé par le résultat immédiat, instantané de ce qu'on fait.
Et pourquoi le kung-fu, alors? À part le fait que vous êtes de la génération des garçons qui ont découvert Bruce Lee quand ils étaient adolescents.
C'est ni Bruce Lee, ni Jackie Chan qui est d'ailleurs client du Chiberta. C'est assez drôle. Mais... Non, ça, c'est une manière pour moi de faire de l'exercice physique. Dans mon bureau, il y a un espace dédié. Et sans être obligé de courir à l'autre bout de Paris ou de prendre 4 heures pour aller jouer au golf ou tout ça. C'est 1h05, 1h10, douche comprise. Et voilà, je me suis bien défoulé pendant une heure.
Europe 1. Nous continuons de rouler avec Guy Savoie jusqu'à la rue Guénégo. On se retrouve dans quelques instants.
On retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et Guy Savoie en balade dans une des célèbres galeries du 6e arrondissement, parce que le chef n'aime pas que cuisiner, non, il aime aussi chiner.
Nous voilà devant la galerie Argile, 16 rue Guénégo. Vous y avez vos habitudes, Guy Savoie ?
Mais oui, moi c'est une galerie bien avant de venir à La Monnaie. Cette rue Guénégo, la rue Callot après, la rue de Seine, c'était mes rues de flânerie ou pour chiner. Et je crois que le premier objet que j'ai dû acheter ici, ça doit dater d'au moins une trentaine d'années.
Et on va lui demander, vous avez fini de le payer, j'espère.
Non, mais on a une très belle histoire à raconter d'oiseaux. D'oiseaux, c'est nous faux.
Bonjour.
Oui, c'est nous faux. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Comment ça va ?
Très bien. Mais vous n'avez toujours pas de chauffage ici. Hein ?
Il n'y a toujours pas de chauffage.
Alors moi, voilà. Pour moi, c'est une galerie. Alors, je la connais surtout pour les bijoux. J'ai l'impression que tous les magazines de mode, depuis quelques temps, viennent s'approvisionner chez vous quand ils font des photos pour vous emprunter des bijoux.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai.
Dans tous, hein, les magazines pour hommes, pour femmes.
On va dire qu'ils se donnent un peu l'adresse, et même pour les défilés aussi, pour les défilés d'autres coutures, tout ça aussi. Ouais.
Vous, ce sont les objets africains, Guy, qui vous attirent
alors,
ici.
Oui, parce que les bijoux, bon, j'ai moins l'occasion d'en porter. Mais c'est vrai que moi, j'ai une passion pour les tabourets.
Hein, absolument, tout à fait.
Toujours, ces tabourets ont toujours un...
très belle collection de tabourets.
Oui, absolument.
Et vous asseyez dessus parce qu'ils sont très très bas, les tabourets.
Non, alors moi je m'en sers de table basse.
D'accord.
C'est-à-dire cette petite table à côté d'un fauteuil, c'est idéal. On a notre petite table basse et c'est très pratique. Puis différents objets. Si j'avais l'histoire des deux oiseaux, c'est nouveau.
Absolument.
C'était extraordinaire. Il y avait un couple d'oiseaux, enfin couple. J'avais décidé qu'il y avait l'homme et la femme, mais j'ai pas les moyens d'acheter les deux.
C'était des objets en bois.
Oui, en bois. Ouais. Ouais, oui, c'est nouveau. C'était en bois coloré.
Ouais, avec une polychromie bleue. Absolument.
Voilà, bleu. Donc je n'en prends qu'un. Et 15 ans après,
ouais,
avenue de l'Opéra un matin, on se croise et il me dit le deuxième oiseau est revenu.
Exactement.
Donc j'ai pris le deuxième et maintenant je ne les sépare plus. Voilà.
Et d'ailleurs, vous les aviez mis à l'entrée du restaurant de Rue Troyon.
Rue Troyon, absolument.
Tout à fait.
Oui, parce que le restaurant à l'hôtel de la Monnaie, là, il n'y a plus d'objets africains. Hein.
Si, à l'entrée de la cuisine, une statue Yoruba, qui est la femme à la coupe,
Absolument.
Un symbole d'offrande et de bienvenue. Je trouve que ça colle bien pour un restaurant.
Ah oui, c'est vrai.
Alors si jamais, comme l'a dit le président de la République, on doit rendre tous les objets à l'Afrique qui n'ont pas été achetés de manière convenable, est-ce que vous avez peur que tout le stock ici disparaisse? Est-ce que la collection de Guy Savoy va devoir être réexpédiée de l'autre côté de la Méditerranée?
Non, parce que ce sont déjà des choses déjà qui existent déjà depuis longtemps.
Déjà ici, donc
oui,
ça ira.
Absolument. Ça ira.
Non, c'est surtout les objets Knock, hein, c'est ça qui est
oui,
en terre.
Oui, beaucoup,
en terre,
exactement. En terre cuite, les Knock, absolument, tout à fait.
Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces objets? Pourquoi on parle de vous?
Je ne sais pas, je pense que... Ils sont en terre. Je pense qu'il y en a certainement beaucoup moins.
Il y en a peu. Il y a très peu de pièces.
Autres objets. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une chasse aux terres. Ouais.
Tous ces objets, en fait, nous, on les voit comme des objets très anciens, ce qu'ils ne sont pas. Hein, la plupart du temps, les objets africains...
Après, vous avez différentes anciennetés. Hein.
Oui, mais la plupart de ceux qu'on connaît, j'imagine, ceux qui sont ici, c'est le 20e siècle, parfois le 19e, mais ça joue jamais au-delà.
Surtout 20e siècle.
Oui, c'est ça. Hein.
L'échelle de Gond, là, elle est...
Ah oui, il y a une belle échelle de Gond, ici.
Elle est magnifique.
Sculptée dans un arbre.
Absolument. C'est vraiment une pièce, c'est monoxyle.
Oui.
Comme d'ailleurs les tabourets.
Comme les tabourets.
C'est ça qui est absolument incroyable. Hein.
Ça vous est venu, comment dit, les objets africains, les meubles africains?
C'est en me baladant là, dans ce quartier, je dis la rue Guénégo, rue Callot, rue de Seine. Et puis, déjà avec un budget pas trop élevé, on pouvait déjà avoir des choses très intéressantes. Et puis, au fil du temps, ça fait une petite collection. J'avais pris un lit, une fois, un lit africain très effilé.
Absolument, tout à fait.
Ouais. Il n'y en a plus de ça, si.
Il y en avait même un que vous aviez pris hein, dans ce.
Ah, celui-là, absolument. Vous rappelez ? Ah, ouais, celui-là.
Il était plus grand.
Ouais.
Il était plus grand, l'autre.
Ouais, ouais.
Et pourquoi l'avez-vous appelé la galerie Argile ?
Ça, c'est ma tante, hein, donc la sœur de ma mère qui est présente, qui avait ouvert la galerie il y a à peu près 70 ans. Donc, et comme elle était très proche d'artistes, elle a toujours vécu dans ce milieu, dans le milieu aussi surréaliste. Il y avait André Breton même venait à la galerie.
Il avait une très grande collection, lui. Hein.
Absolument, absolument, absolument. D'ailleurs, il est même indiqué, ma tante est marquée par rapport à la galerie dans le catalogue de la vente de Breton.
Et la peinture africaine, ça vous intéresse
Un peu moins. Moi, je suis plus sur les objets en matière d'Afrique. Je crois qu'il y a parce que tous ces objets, on le sent, ils ont un vécu. Quoi. On sent l'échelle, elle a. Elle a dû en voir monter des personnages.
Il faut avoir le sens de l'équilibre en plus pour ces échelles Yoruba. Moi, j'ai jamais réussi à grimper sur une, je tombe à chaque fois.
Non, c'est quand on voit comme les marches sont lisses, on imagine combien de pieds ont patiné ce bois.
Bon, merci de votre accueil.
C'est avec plaisir.
Vous achetez rien aujourd'hui?
Non, mais si, j'ai regardé le petit lit, là.
Le petit lit. Qui revient à côté de l'autre.
C'est un âge où il faut que je me repose souvent. Donc, il faut mettre des lits partout.
Évidemment, je comprends. Guy Savoy, je sais que vous aimez beaucoup les suites pour violoncelle de Bach. Il y en a une en particulier que vous adorez. Je crois que c'est la suite pour violoncelle seule, la numéro 1.
Voilà,
Rostropovitch.
Moi, j'ai appris qu'il la jouait plus vite que les autres. C'est peut-être pour ça qu'elle.
Absolument. C'est lui qui la joue le plus vite, je crois.
Absolument.
Et c'est peut-être quelques secondes. Lui donne cette beauté extraordinaire.
Qui est sublime.
C'était la suite pour violoncelle, le seul numéro 1 de Bach, interprété par Rostropovitch. Voilà. Il met à peu près 20 secondes de moins que les autres l'interpréter.
J'avais jamais chronométré. J'aurais d'ailleurs du mal à lire la partition. Donc.
On va quitter la galerie Argile. Merci pour votre accueil.
Avec plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci. Et on va continuer notre balade avec Guy Savoy.
Frédéric Taddeï, en balade avec Guy Savoy sur Europe 1.
Dans la vie, on peut acheter une maison avec jardin. Ou on peut acheter une maison avec jardin. Pour vos lunettes, c'est plus simple. Pour être sûr de porter des verres Essilor, rendez-vous chez un partenaire Essilor, reconnaissable au label opticien engagé. Liste des opticiens partenaires sur essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien.
Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste.
Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82.
CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim.
Leclerc. Leclerc transforme l'électricité en tickets Leclerc.
Ah oui, très bien, mais comment ?
En vous abonnant en un clic, hop, sur www.energie.leclerc.
Oui, mais les coupures ?
Sans risque de coupure.
J'économise combien ?
20% de votre consommation d'électricité.
Oh, dites-moi le nom.
Énergie Leclerc, une énergie nouvelle pour votre pouvoir d'achat. Offre au profit des porteurs de la carte Leclerc, détail et souscription sur www.energie.leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le 6e arrondissement, c'est là où chine le chef Guy Savoy, mais aussi là où se trouve un de ses restaurants. On le retrouve d'ailleurs devant avec Frédéric Taddeï pour la suite de leur balade.
Nous arrivons au 53 quai des Grands Augustins, où se trouvent les bouquinistes, l'un de vos restaurants. Guy Savoy, vous en avez combien à Paris maintenant ?
Mais 4 restaurants, le principal à La Monnaie, le plus proche de La Monnaie, c'est les bouquinistes.
Et à l'étranger, il y en a combien ?
Juste à Las Vegas, au César Palace. Ouais.
Donc là, on est sur les quais, en face des fameux bouquinistes.
En face des fameux bouquinistes, absolument.
Baptisé votre restaurant les bouquinistes. Il est à l'angle de la rue des Grands Augustins. Je vous en prie, entrez.
Entrez. Voilà, bienvenue. Il fait bon ici. Et puis alors là, c'est je ne sais pas s'il y a un autre restaurant sur la planète où on peut déjeuner et dîner dans une œuvre d'art. Parce que là, il y a une histoire. Au début, les murs sont...
Les murs sont... On pourrait dire qu'ils sont tagués. Non, ils sont peints.
Ils sont peints
par
Fabrice Hibert.
Qui est là, voilà, justement, d'ailleurs,
au bar. Qui est au bout du bar, parce qu'il passe sa vie au bout du bar.
Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Frédéric.
Bonjour. Toujours fier de cette œuvre. Elle a 2 ans maintenant. Hein.
Oui, toujours très fier. Ouais. Très, très fier.
Menu métal, c'est ça?
Menu mental.
Menu mental.
Menu mental.
Moi, je me souviens que c'était menu métal.
Menu mental.
Menu mental, parce que vous voyez.
C'est tous les murs du restaurant sont recouverts de mots.
Voilà.
Et voilà le vrai chef.
Le vrai chef. Stéphane Perrault.
Bonjour.
Qui est en pleine forme.
C'est Fabrice aussi qui a peint les plafonds du restaurant qui est à La Monnaie.
Absolument, la partie bibliothèque, voilà. Là, alors, tu racontes l'histoire.
Je suis toujours proche des livres, en fait. Le menu mental, en fait, c'était aussi de mettre tous les mots, parce qu'il y a des bouquinistes pas très loin, c'était d'associer tous les mots de la cuisine et de un peu érotique. Ah. Donc quand on lit, en fait, on s'amuse à vaguer entre la nourriture, oui, la bouffe, le repas, et puis tout ce qui peut se passer juste un peu après le repas.
Cocotte, cuisse.
Voilà. Ustensiles, bijoux.
Cuir, marinade.
Voilà. Collé, œsophage, estomac, évidemment.
Tradition, ficelé.
Est-ce que Stéphane les relit religieusement chaque jour avant de se mettre en cuisine ?
De temps en temps, oui. Ça arrive.
Mais on en découvre des nouveaux. Moi, chaque fois que je viens là, je découvre un nouveau panneau, je découvre des nouveaux mots. Parce que l'histoire, quand même, c'était... Fabrice devait faire qu'un seul panneau, ouais, là, c'est celui-ci. Et puis il me rappelle, il me dit écoute, je vais continuer, j'ai fait tout le restaurant.
C'est presque ça.
Il y a Jean-Michel Villemotte aussi qui a un peu travaillé ici. Hein, oui, c'est fait la déco. C'est Jean-Michel. Les bibliothèques à vin, c'est Villemotte. C'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel Villemotte qui a fait. C'est un peu la signature qu'on retrouve dans tous les restaurants. Chiberta, il y a
tous les restaurants de Savoie, voilà, il y a une bibliothèque à vin.
Voilà.
Et Fabrice, qu'est-ce que ça fait d'être à quelques pas de l'ancien atelier de Picasso, là où il a peint Guernica, hein, bah, c'était là, dans c'était la rue des Grands Augustins, à 50 mètres, il fait celui qui n'avait même pas réalisé.
Picasso
qui parlait où
Guernica, ça devait sur de la grosse toile, là, je fais de la fine toile. En fait. Mais c'est vrai que c'est vrai. Je fais ça sur la toile ici aussi pour donner du confort aussi à l'espace, donner une sorte de son un peu moelleux. En fait, c'était très important aussi.
Il y a une influence de la peinture sur la cuisine, Guy Savoie ?
L'influence, elle vient de partout. Elle vient du quotidien, elle vient de la balade qu'on vient de faire dans Paris. C'est des produits qu'on a vus, c'est des objets ou les œuvres dans une galerie ou une boutique. C'est tout ça. Bien sûr qu'on est inspiré par tout son environnement.
Mais sur la forme, la peinture, c'est les couleurs, c'est les formes. Oui, c'est quand on compose un plat, une assiette, non, on n'y pense pas ?
C'est spontané, quoi. C'est instantané. Et il faut pas trop se poser la question.
Faut pas réfléchir.
Faut pas trop se poser la question parce que il faut que ça tombe juste tout de suite. Quoi.
Stéphane, influence de la peinture, non ?
Beaucoup. Moi, je peins moi-même. Donc, voilà. Mais des fois, on fait des plats, des assiettes, et on se rend compte qu'il y a une réelle corrélation entre le plat et la peinture, et sans faire exprès.
Oui, ça doit être naturel. Si ça devient, si on se prend pour des peintres, alors ça c'est terrible. Je crois que c'est la pire attitude. Et non, mais c'est d'être. Là, j'ai pu travailler quelques fois Fabrice il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il nous a fait un buisson d'artichaut dans un des salons de la Monnaie, et j'ai été très impressionné.
Mais il l'a peint ou il l'a cuisiné ?
Il l'a dessiné. Au pastel sur un mur noir. Ah oui. Et moi, je suis très inspiré de la cuisine quand je peins, par contre.
Ah oui ?
Oui, parce qu'en fait, je peins avec des jus. Donc, je peins, j'écris les mots, je dessine les choses. Et en fait, le jus fait la couleur, la matière. Pour moi, peindre, c'est comme faire un bout de cuisine. C'est ma cuisine à moi.
Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que vous avez commandé un verre d'eau. Là, je vois que vous buvez de l'eau. Picasso n'aurait jamais bu de l'eau.
Oui, ça,
Picasso,
c'est sûr.
Il aurait bu, je ne sais pas, un lait grenadine. Non, un truc avec des couleurs, toujours.
Ah oui ?
Ah oui, toujours. Ah bon. Picasso, et je pense qu'il buvait toujours des liquides improbables.
C'est vrai.
On se demandait pourquoi, mais c'est parce que c'était les couleurs qui l'excitaient. Ils s'en fichaient du goût.
Oh. Ah, pourtant, c'est indissociable.
Ah oui,
pour le cuisinier. Mais le peintre, lui, ne mangeant pas ses peintures.
C'est pour ça que le cuisinier a un gros avantage sur le peintre.
Je vais faire des peintures avec du jus de cuisine bientôt.
Du jus de cuisine, absolument.
Et qu'est-ce qu'on peut boire, nous, alors ?
Qu'est-ce que vous souhaitez ?
Un truc avec des couleurs.
Un vin rouge, alors.
Un vin rouge.
Qu'est-ce qu'on...
On se retrouve dans un instant avec Guy Savoie et Fabrice Hibert au restaurant Les Bouquinistes.
Europe 1, en balade avec Guy Savoie. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours au restaurant Les Bouquinistes, 53 Quai des Grands Augustins, l'un des quatre restaurants de Guy Savoie dans Paris. Il y a là Fabrice Hibert, qui avait reçu le Grand Prix à Venise. Hein. C'était en quelle année ?
1997.
Voilà, et qui a peint ici les fines toiles qui servent de décor, qui a peint également les plafonds du grand restaurant Guy Savoie de l'Hôtel de la Monnaie. Et nous apprêtons à boire quel vin vous nous avez choisi, Guy Savoie ?
C'est un vin de la Vallée du Rhône, hein, c'est ça ?
Oui.
Hein, Stéphane, qu'est-ce que tu nous as mis ?
L'âme sœur, c'est un Vallée du Rhône de chez Augier.
Ah. Merci. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toujours des murs plutôt gris chez Guy Savoie ?
C'est faire un peu les crins ou l'antre pour que justement la table devienne la table ou l'extérieur du restaurant soit mise en valeur. Quoi. Qu'on n'ait pas l'œil
distrait.
Je crois que écrin ou antre, je crois que c'est ce qui va bien.
Parce que la monnaie, c'est pareil, hein, c'est plutôt des tons gris, un peu chaud. C'est
gris, voilà, gris, mais avec gris, avec du rouge dedans.
Et rue Troyon, l'ancien grand restaurant.
C'était très foncé. Santé, mon cher Fabrice. Santé, santé.
Il est délicieux.
Et puis une bouteille à 12, ça va, quoi. C'est consommé avec modération.
C'est devenu la phrase qu'il faut absolument, dès qu'on prononce le mot vin, il faut dire à consommer avec modération.
Et moi, je rajoute, et en très bonne compagnie, ce qui est le cas aujourd'hui.
L'idée du mariage parfait entre le vin et ce que l'on mange, j'ai l'impression que c'est une idée un peu récente.
C'est la signature de la gastronomie française. Je crois que c'est le...
Mais c'était déjà le cas autrefois ?
Oui, il y a toujours eu cet attachement. Le mot gastronomie englobe tout ce qui a rapport à la... ce qu'on appelle les métiers de bouche, que ce soit la charcuterie, la pâtisserie, la chocolaterie, la fromagerie, les vins et tout. Et je crois que c'est important, dans le cadre de cette gastronomie, d'allier les mets et les vins. Ça décuple le plaisir. Il faut que tout ça soit en synergie. Je crois qu'on ne peut pas... On ne peut pas dissocier le vin des mets dans la gastronomie française.
Et alors avec ça, il faudrait manger quoi ?
Là, je pense qu'une volaille là-dessus, ça serait exceptionnel, non ?
Oui, une belle volaille.
Hein, une belle volaille.
Votre maman, au départ, elle avait une buvette, non ? Une simple buvette.
C'était une simple buvette qui, au fil du temps, est devenue un vrai restaurant. Parce que,
elle avait fait un restaurant réputé, je crois.
Comme c'était un lieu champêtre, au fil du temps, le dimanche, les familles venaient là boire un verre, les hommes jouaient au boule, les femmes s'occupaient des enfants. Et voilà, le soir, ils disaient, bon, avant de redescendre, comme c'était en hauteur au-dessus de la ville, ils disaient, on mangera bien quelque chose. Alors, elle a commencé à faire des assiettes de charcuterie avec des fromages blancs à la crème, comme on fait beaucoup dans la région là-bas du Bas-Dauphiné. Après, elle a rajouté l'omelette. Donc, c'était omelette. Après, elle a fait... Il y avait un vivier. Mon père a décidé d'y mettre des truites. Donc c'était
Il était jardinier, votre père.
Oui, voilà. Voilà. Après, c'était truites. Puis après, elle a fait des escargots, du coco au vin. Enfin, ses gratins, ses tartes, les glaces. Elle était connue pour tout ça. Et moi, j'ai commencé à... Je sais pas, dès 8-9 ans, j'ai commencé à toucher à tout ça. J'ai cuit mes premières truites et omelettes. Oui, j'avais 8-9 ans.
Et jamais plus, vous n'avez eu envie de faire autre chose que cuisiner ?
Non, j'ai jamais eu envie parce que je me rends compte aujourd'hui. Hein, c'est un peu comme le chocolat. On met un certain temps à se rendre compte qu'on aime le chocolat. Mais là, c'est d'être en permanence dans le concret, moi, qui me touche dans ce métier. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas dans le virtuel, quoi. C'est concret. On touche les produits, on les assaisonne, on les coupe, on les cuisine, et toujours dans un temps très court, en fait. Parce que même la cuisson d'un poulet, c'est quoi, 45 minutes. Donc c'est ça, moi, qui me touche, c'est ce concret. Dès que j'ai su lire et écrire à l'école, je me suis ennuyé. Alors que lorsque j'aidais ma mère à la cuisine, je ne me suis jamais ennuyé.
Je vous ai entendu dire un jour qu'adolescent, vous aviez assisté à un concert de Julien Clerc, qui en était lui-même à ses débuts. Hein.
Tout à fait. C'était à quelques kilomètres de Roanne, où je faisais mon apprentissage, c'était au casino de Moron-les-Bains. Et là, je me souviens de ce moment assez incroyable, parce que c'était la star de R.
Oui, et là, la comédie musicale, et tout le monde était tout nu, sauf lui. Voilà.
Et on l'avait, on était une petite centaine dans la salle, et on l'avait pour nous, quoi. C'était génial. On était même assis, la plupart, on était assis autour, là, autour de la scène et tout, c'était un moment...
Il devait chanter à l'époque La Cavalerie.
La Cavalerie, absolument.
Il y a une très belle chanson. On va l'écouter, La Cavalerie, Julien Clerc.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, tombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques. quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, mes rails coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage. Et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie.
C'était La Cavalerie que chantait Julien Clerc en 1968. Et je me dis que le petit Guy Savoie, écoutant cette chanson, devait se dire qu'il était à 1000 km de ça, La Cavalerie. On voit les motos pétaradantes, c'est entre Woodstock et l'équipée sauvage. Et je me dis, le petit Guy Savoie qui, toute la journée, épluchait des légumes.
Absolument, disait, voilà. Ben, j'avais déjà mon permis moto.
Ça aide.
Et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai un peu roulé à moto, mais pas très longtemps. Parce que...
Comment est-ce que vous créez vos plats, vous, Guy Savoie ? Par exemple, votre plat fétiche, l'un de vos plus célèbres et qui reste l'un de mes préférés, mais au monde, hein, dans les 10 trucs que j'ai mangé le meilleur, il y a votre soupe d'artichaut et aux truffes noires, avec la petite brioche à la crème. C'est venu comment, par exemple, celui-là ?
Alors ça, je vais vous dire, et ça, ma mère me l'a avoué qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais bébé, la seule purée de légumes que je pouvais manger était la purée d'artichaut. Alors, est-ce que ça vient de là ? Je ne sais pas. Après, la première vraiment gourmandise pour laquelle j'étais vraiment fan à l'extérieur de la maison, c'était la brioche feuilletée aux fruits confits que faisait Louis Marchand, mon premier maître d'apprentissage. Et à partir du moment où j'ai su faire la brioche, je n'avais qu'une idée en tête, c'est de faire une version salée. Donc, un jour, j'ai marié les deux et un convive fidèle de la maison m'a donné, il y a 2 ans, la définition de ce plat. Il m'a dit, l'artichaut, c'est tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Donc, voilà l'inspiration, en fait.
Europe 1. Eh bien, on va continuer notre balade avec Guy Savoie et on va arriver à la Monnaie. Là, c'est juste à côté. Hein.
C'est pas très loin.
Le grand restaurant,
il y a 150 mètres.
Guy Savoie, considéré comme le plus grand restaurant du monde. Il est à 50 mètres d'ici, on y va.
Frédéric Taddeï ne pouvait pas se balader avec Guy Savoie dans les rues de Paris sans rentrer, bien sûr, dans le restaurant de la Monnaie de Paris qui porte sobrement le nom du chef.
Et nous voilà au 11 Quai Conti, dans le 6e arrondissement, l'hôtel de la Monnaie, où se trouve le restaurant Guy Savoie depuis 2015 maintenant. Dans l'entrée, les colonnes doriques sont décorées pour Noël.
Oui, dans le péristyle, c'est un air de fête.
Alors on tourne à droite pour aller chez vous.
On tourne à droite.
Il y a l'escalier d'honneur.
Voilà. Le tapis a changé un peu de couleur parce qu'il est passé du rouge au rose parce que actuellement c'est l'expo de Raison Perry.
Oui. Parce qu'il y a aussi le musée de la Monnaie.
Voilà. Il y a le musée de la Monnaie, mais il y a tout l'espace d'exposition temporaire. Et en ce moment c'est l'artiste anglais Raison Perry qui fait une
cette entrée
jusqu'au mois de février.
Cette entrée est majestueuse. Hein. Ça a été l'une des dernières usines de Paris, hein,
absolument,
qui employait jusqu'à 400 personnes début des années 2000, des ouvriers fabriquaient les modèles et les médailles.
Il y a encore. Bon, donc les pièces maintenant sont frappées à Pessac, au côté de Bordeaux. Mais ici, sont encore fabriquées toutes les médailles et les commandes spéciales. Et il y a encore, je crois, 250 personnes qui travaillent dans le cadre de la Monnaie.
Tous les jours, vous marchez sur votre nom, puisque là, il y a un tapis gris avec écrit Gris Savoie. Gris Savoie, et j'ai les pieds dessus. Je suis en train de m'essuyer.
Non, alors le soir, moi, ce que j'adore, c'est de mettre à genoux sur le banc, là, et je regarde. Voilà.
De regarder les gens qui montent l'escalier ?
Non. Une fois que tout est fini, je trouve qu'il y a...
Il y a une atmosphère.
Voilà, puis après, j'hésite pas non plus à faire un tour dans la cour. Parce que c'est quelque chose, cette cour. Quand
le cours de l'hôtel de la Monnaie, ouais, c'est un hôtel du XVIIIe siècle. Hein, donc,
ouais, c'est un petit Versailles au cœur de Paris.
C'est assez massif. Voilà. Fabrice Hibert, je crois que c'est vous qui avez peint les plafonds ici.
Un seul. Non, puis il a fait, tiens, viens voir, il faut voir la fresque de Fabrice, qui est juste à la sortie d'ascenseur.
Oui, c'est une analogie entre les cellules de humaines et les pièces de monnaie.
Humain, d'ailleurs.
Et les pièces de monnaie, voilà.
D'accord.
Voilà.
Les cellules et puis sont... les métaux, et les différents
argent,
métaux.
Argent, or, cuivre. A-O-Q.
Hey, il a un côté, le Madame Vermouc, j'ignorais, Fabrice Hibert. On le voit comme un artiste plasticien très intellectuel. Mais il sait s'amuser comme tout le monde.
Mais c'est ce que j'appelle la... Alors, je vais le dire en anglais.
Les deux portes s'ouvrent automatiquement du restaurant.
Ma définition de la touche française, ça sera mieux que French Touch, c'est la fantaisie juste au bon moment. Et ça, Fabrice, c'est le maître S Fantasy.
Bonjour.
Là, on a donc Marie-Caroline qui nous accueille.
Bonjour Marie-Caroline.
Elle a reçu le prix du plus beau sourire de la maison. Donc voilà, voilà la définition de... Enfin,
qui est encadrée. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Ce sont des petites lettres en...
Je voulais vraiment mettre en opposition le côté instantané de la cuisine, c'est-à-dire le côté spontané et instantané du cuisinier. Et l'histoire des produits, l'histoire à la fois des races, des espèces, mais l'histoire de chaque produit. Et c'est ça qui me fascine toujours, c'est que nous, on a le beau rôle. Quoi.
Le cuisinier.
Dès que la carotte ou le homard sont dans la maison, c'est facile. Mais celui qui a fait pousser la carotte, qui est allé pêcher le homard et tout, c'est beaucoup plus difficile.
Il fait bien chaud chez vous. Le décor est très sombre, hein, gris, presque noir, oui, anthracite.
L'antre.
Il y a des tableaux, je crois que c'est François Pinault qui vous les a prêtés.
Absolument, sauf le Fabrice. Bon, les Fabrice Hibert m'appartiennent et toutes les autres œuvres sont de la collection de François Pinault, absolument.
Ensuite, c'est une succession de salons.
Alors voilà la dernière œuvre de Fabrice.
Ah, c'est le fameux...
Buisson d'artichaut.
Peint sur une double porte.
Sur une double porte, il a débordé un peu sur les murs. Je l'ai arrêté là parce qu'il voulait faire toute la salle.
Alors, il faut voir, ça veut dire que les doubles portes sont très hautes, hein, ouais, parce qu'on est dans un hôtel.
Alors, il y a un moment, je lui ai dit, dessine-moi un artichaut. Et il m'a dessiné un artichaut.
Vous savez qu'avec la loi, vous ne pouvez absolument pas le détruire. Hein, c'est-à-dire qu'il peut vous attaquer ensuite, Fabrice Hibert. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là, c'est là.
Ah, mais non, justement, c'est l'angoisse de tout le monde depuis hier, c'est qu'il y a la moindre trace d'effacement. Donc. Et je vois qu'il a préparé encore une bombe pour vraiment fixer la couleur.
On vous laisse travailler, Fabrice Hibert. Donc, nous voilà dans le plus grand restaurant du monde, avec ses immenses portes-fenêtres qui donnent sur la Seine,
sur la Seine, le Vert-Galant. La nouvelle Samaritaine, parce que ça fait que 3 jours que les algécos qui cachaient la façade sont enlevés. Donc, on va avoir cette magnifique façade en face de chez nous.
Est-ce qu'il y aura un hôtel ?
Un cheval blanc. Là, le Louvre, bien sûr.
Ouais. C'est quoi la meilleure table, celle que vous recommandez avec la meilleure vue ?
Je ne sais pas, ça dépend combien vous êtes. Moi, j'ai une affection particulière pour celle-ci.
C'est la combien, celle-ci ?
Celle-ci, c'est la 200.
Ah, vous avez 200 tables ici ?
Non, vous rigolez. Vous voulez un chiffre rond ? Ben, regardez le plafond.
Fabrice Hibert.
C'est le plafond de Fabrice Hibert. Là, il y a toute la collection des guides Michelin depuis 1900.
Donc, bien avant qu'il vous donne une, puis deux, puis trois étoiles.
Heureusement, dites-moi. Voilà. Donc, il y a toute la collection qui a été complétée. Il me manque un exemplaire. C'était une version américaine de 1939. Là, celle-ci, avec un couleur papier Kraft. Et c'est un des bouquinistes, juste en dessous de chez nous, qui
vous l'a trouvé.
Voilà.
Et ils vous ont bien fait attendre quand même, le guide Michelin, parce que la première étoile, ils vous la donnent tout de suite.
En 80,
deuxième,
très vite, 85.
La deuxième, 7 ans.
85,
plus tard.
Non, même pas. 4 ans plus tard, 85.
Et la dernière, la troisième, 15 ans plus tard.
15 ans, 15 17 ans plus tard. Plus tard, oui.
C'est joli à cette heure-ci, quand il n'y a pas encore de clients.
Voilà, on est
l'impression d'être dans les coulisses.
La mise en place est là.
Et puis on voit des choses qu'on ne voit jamais normalement. Hein.
Les nappes sont repassées sur la table.
Bonjour.
Pour qu'il n'y ait absolument pas... Aucun pli, aucun faux pli sur les nappes. Voilà.
Et quand il y a des enfants, ils en mettent partout, les enfants. Ils viennent chez vous, vous les interdisez?
Non, trop petit, ça n'a aucun intérêt. Je crois qu'avant 7-8 ans, c'est assez difficile de tenir un enfant à table.
Vous emmeniez où vos enfants, vous, pour manger au restaurant?
Dans les restaurants chinois, parce qu'ils pouvaient en mettre partout.
On se retrouve dans un instant avec Guy Savoy dans son restaurant, le plus grand restaurant du monde.
Est-ce que vous avez déjà eu la chance de rentrer dans la cuisine d'un grand chef? Eh bien, si vous n'avez jamais pu, écoutez bien la fin de la balade de Frédéric Taddeï et Guy Savoy. C'est comme si vous y étiez.
Et nous voilà donc dans la cuisine du restaurant de Guy Savoy à l'hôtel de la Monnaie, une cuisine dans laquelle je n'étais jamais rentré.
Voilà. Alors que la particularité de cette cuisine, c'est qu'elle a des fenêtres de chaque côté,
dont une qui donne
sur la cour de la Monnaie, la cour des remises. Et puis en face, on a l'autre vue. Tiens, venez voir parce que c'est assez spectaculaire.
Tiens, on peut préparer Simon. Tu gères ça?
Bonjour.
Des tasses de soupe d'artichaut.
Hein, là, donc, la table des cuisiniers qui est là. Oui. Et là, de ce côté, regardez, c'est vu sur l'Institut, le Pont des Arts, le Louvre, la Seine.
Magnifique.
Je crois qu'il n'y a aucune autre.
Mais voilà, la meilleure table du restaurant du Savoie, c'est la table des cuisiniers.
C'est la table des cuisiniers, voilà.
Ils sont combien dans la brigade?
Alors, entre la cuisine, pâtisserie et plongeur, on est une quarantaine.
Oh là.
Oui, c'est beaucoup de monde, beaucoup de monde.
Alors, même
on a fait rentrer l'art dans la cuisine. Ça, c'est un collage de Georges Autard, qui est un peintre marseillais. Alors, il y a une affiche là, que j'aime beaucoup, parce qu'elle a été faite par Descloseaux. Descloseaux a beaucoup illustré dans Le Monde les chroniques de Jean-Claude Ribaud. Il a fait une exposition il n'y a pas très longtemps, et quand j'ai vu cette bâche, j'ai
écrit « Ne me parlez pas sur ce ton », c'est un cuisinier qui dit cela.
Un cuisinier, et il est debout sur un ton, voilà.
Et ça continue, la cuisine, la cuisine continue encore. Là aussi, c'est des petits salons comme dans le restaurant.
Voilà, absolument.
Elles sont quoi, des côtelettes d'agneau?
Non, c'est des os de poulet. Ça, c'est pour préparer le jus de poulet.
D'accord.
Attends, notre ami Fabrice s'en va. Tu t'en vas, tu t'en as marre. Dans 5 minutes, il y a un peu de soupe d'artichaut, si tu veux.
Ah.
Ah, voilà,
il va rester.
Voilà comment on garde un artiste. Là, c'est toute la partie des légumes.
Ouais, je vois des carottes magnifiques.
Voilà, de plusieurs couleurs. Et elles sont dressées en chartreuse, là, debout comme ça. Là, c'est le coin des poissons. Et là, c'est le coin des viandes, sous la houlette d'Oliver, qui est un cuisinier anglais. Ce qui prouve bien que la cuisine, même en Angleterre aujourd'hui, a de l'intérêt.
Combien de nationalités dans cette brigade?
En tout cas, une dizaine dans le restaurant. Je crois qu'on a, on oscille toujours entre 15 et 20 nationalités.
Et toujours la tradition qu'une fois par semaine, il y en a deux qui préparent le petit déjeuner?
Absolument, le vendredi matin. Alors là, c'est le petit déj. Et ça, c'est assez spectaculaire.
Et ils préparent à chaque fois un petit déjeuner inspiré de leur...
De leur pays ou région d'origine. Oui.
Ouais. J'adore les bruits de la cuisine.
Ouais,
et moi qui suis un peu atrophié du côté de l'odorat, là, je dois dire que je sens les champignons.
Ça sent, et puis le jus de poulet, là. C'est
le jus de poulet.
Ouais, les autres poulets qui rissolent. Ouais. Qui rôtissent.
Mais c'est quoi, à vous, Guy Savoy, votre plat préféré, vous? Ce serait quoi?
Alors, on a une telle diversité, on a tellement de choses que moi, me limiter à un plat, c'est pas dans ma nature. Je sais pas, ça dépend. Alors, ça dépend bien sûr de la saison, ça dépend de la situation, de l'occasion, des personnes avec lesquelles vous êtes. Moi, ça peut être un fondu au fromage dans un chalet de montagne. Parce que le fromage est exceptionnel, parce que les amis qui sont autour de la table sont des bons amis, comme ça peut être, je ne sais pas, un magnifique homard sur le bord des Abers à Prat ar Cwm avec quelques huîtres avant. Donc c'est vraiment...
Est-ce qu'il y a des ingrédients que vous n'avez jamais cuisinés, que vous n'aimez pas?
Mais tout à l'heure, vous avez parlé des insectes. Oui. Ça, c'est non, je refuse. Oui. On a suffisamment de produits.
Mais parmi tous ces produits merveilleux qu'on a, on a souvent quelque chose.
Ah non,
qui
moi j'ai un problème
pas.
Avec le poivron.
Ah ben voilà.
Alors, avec les poivrons crus, lorsqu'ils sont cuits à l'espagnol, c'est-à-dire bien confits et tout, pelés, j'ai aucun problème. Mais un poivron cru ou une purée de poivron et tout, ça c'est impossible.
Et est-ce qu'il vous arrive d'être invité à déjeuner ou à dîner chez les gens et est-ce qu'on ose vous faire la cuisine?
Bien sûr. Oui. Bon.
Ouais, souvent, on n'ose pas faire la cuisine à un grand chef.
J'ose bien vous parler.
Merci, Guy Savoie, de nous avoir emmenés aujourd'hui en balade avec vous. Dieu sait si elle se termine bien. J'en profite pour remercier la boutique Patrick Roger et Patrick Roger, le marché Poncelet et tous vos fournisseurs si agréables, la galerie Argile, le restaurant Les Bouquinistes et évidemment le restaurant Guy Savoie et son heureux propriétaire.
Absolument. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir et de terminer cet itinéraire qu'on peut qualifier de gourmand parce qu'il y avait la gourmandise partout.
Et nous retrouvons, bien entendu, dimanche prochain à 11h pour d'autres aventures.
Merci Frédéric Tédéi. À la semaine prochaine. Je rappelle qu'en attendant, on peut réécouter cette émission ou les anciennes en podcast sur notre site europe1.fr. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouvez le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle. Profitez bien avec Europe 1, il est midi 27.